Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est le député européen François-Xavier Bellamy qui est actuellement sur le territoire. Il est aussi numéro 2 des Républicains, François-Xavier Bellamy. Bonjour.
Bonjour.
Merci à l'ICE de Radio Rythme Bleu à l'occasion de ce déplacement en Nouvelle-Calédonie. Vous étiez déjà venu d'ailleurs, nous avions reçu lors de votre dernière visite qui remonte à 2023. Depuis votre arrivée, vous avez rencontré beaucoup de gens, vous êtes allé sur le terrain. Dans quel état est-ce que vous avez trouvé la Nouvelle-Calédonie un an après les violences insurrectionnelles de mai 2024 ?
La Nouvelle-Calédonie que je retrouve aujourd'hui, deux ans après être venu, n'est plus la même. Et ce qui me marque le plus, c'est que le 13 mai et les jours qui ont suivi ont créé une forme de traumatisme collectif qu'il faudra sans aucun doute du temps pour digérer. Le 13 mai, ça n'était pas il y a un an. Le 13 mai, c'est tous les jours ici, tous les jours pour tous les Calédoniens. C'est bien sûr l'immense fragilité économique, les entreprises qui peinent à redémarrer, ce sont les emplois perdus, ce sont tout ce qui a été détruit de services pour les habitants, les petits commerces, les services publics, les services de soins en particulier. Et puis c'est cette défiance très profonde dans la société calédonienne. Je crois qu'il faut prendre la mesure de ce qui s'est joué dans ces jours-là pour pouvoir comprendre le travail qui nous attend pour reconstruire maintenant.
Sur les causes elles-mêmes de cette insurrection très, très violente qu'a connue la Nouvelle-Calédonie, le prétexte, ça a été la modification du corps électoral de la Nouvelle-Calédonie. Mais on dit aujourd'hui que la Calédonie est frappée par la crise. On a presque oublié ce qui l'a provoqué. Vous-même, est-ce que vous avez pu en parler avec les uns et les autres et comprendre comment ce phénomène avait pu exploser sur le territoire ?
Moi, je n'oublie pas ce qui a provoqué cette crise. Ce qui a provoqué cette crise, c'est le fait qu'une petite minorité a décidé que la violence devait l'emporter sur l'expression démocratique. Il y a eu un accord important, l'accord de Nouméa, qui a réuni toutes les forces calédoniennes, de toutes les sensibilités, de tous les horizons, de toutes les communautés, pour dire « maintenant nous avançons vers un processus qui permettra que les Calédoniens s'expriment, que les Calédoniens s'expriment à travers trois référendums uniques ». Dans l'histoire des démocraties. Trois référendums qui devaient permettre une autodétermination. Ces trois référendums ont eu lieu avec un corps électoral qui était gelé pour garantir justement ce travail de décolonisation. Et quand ces trois référendums se sont terminés et qu'il a légitimement été nécessaire de se projeter vers l'avenir et de dégeler le corps électoral, parce que c'est un impératif fondamental d'un point de vue démocratique pour prendre en compte l'expression des Calédoniens, eh bien certains ont décidé que la violence devait avoir raison contre le droit, contre la liberté, contre la démocratie, contre la dignité des habitants de Nouvelle-Calédonie. Et le résultat, il est là, et je crois que tout le monde doit le regarder avec lucidité. Le résultat, c'est que tous les Calédoniens ont perdu dans cette histoire. Tous. Personne n'a gagné. Et je pense aujourd'hui à tous ceux, et notamment les plus vulnérables, les plus fragiles, notamment ceux qui avaient le plus besoin de trouver leur place dans la société, qui se trouvent aujourd'hui directement victimes de cette situation. Je pense à tous les habitants de Nouvelle-Calédonie, de toutes les provinces, la province du Nord, la province des îles, la province du Sud, qui aujourd'hui ne peuvent plus se soigner ou soigner correctement leurs parents, leurs grands-parents fragiles ou malades. Je pense à ceux qui n'arrivent pas à trouver de travail. Je pense à ceux qui ont fait la queue il y a quelques jours devant cet hôtel qui proposait 5 contrats et qui a vu 500 personnes arriver pour présenter un CV. Je pense à la réalité de cette inquiétude économique, à la multiplication de ces situations d'insécurité profonde. Tout cela, aujourd'hui, il faut le regarder avec lucidité pour que tout le monde prenne de nouveau cet engagement absolument clair. Jamais, jamais la violence ne doit avoir le dernier mot. Jamais. Et aujourd'hui, ceux qui chercheront à gagner par la violence continueront d'alimenter cette spirale de destruction qui sanctionne à la fin tous les Calédoniens.
On va vous dire que c'est un beau principe, il ne faut pas céder, il ne faut pas laisser la violence faire. Mais comment est-ce qu'on fait pour lutter contre cette violence ? Il y a un an, l'État n'a pas été capable d'assurer la sécurité. Est-ce qu'il va être capable de le faire ? Est-ce qu'il serait capable de le faire demain ?
Ça n'est pas un principe, c'est une réalité concrète. D'abord, parce qu'effectivement, il faut se donner les moyens de cette sécurité. Avant de venir, j'ai échangé avec le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui est devenu le président de notre formation politique et qui m'a chargé de dire aux Calédoniens que l'État restera aux côtés des Calédoniens pour garantir leur sécurité. Hier, avec Virginie Rufna, qui est première vice-présidente du Congrès, nous avons été sur le terrain, saluer les forces de l'ordre, saluer les policiers. Tout à l'heure, je verrai les gendarmes. Je voudrais leur dire ma reconnaissance pour leur engagement, pour leur dévouement, pour leur présence. Cette présence, elle est fondamentale, elle doit être maintenue. Mais faire en sorte que la violence ne revienne pas, c'est aussi refuser de lui donner raison. Et moi, je dois dire que je me sens en désaccord profond avec les responsables politiques qui, aujourd'hui, décident que parce que la violence a frappé, il faudrait peut-être changer les termes du débat, il faudrait peut-être accepter de faire des concessions. Parce que la violence a ravagé la Nouvelle-Calédonie, il faudrait, par exemple, promettre un quatrième référendum. Mais je l'ai dit il y a un an et je le redis aujourd'hui, cela, c'est ouvrir la porte à de nouvelles violences. Ça n'est pas ramener la paix. On ne ramènera pas la paix en faisant que la violence paye. On ramènera la paix en disant que jamais ceux qui détruisent n'auront gain de cause à la fin. Et donc, ça n'est pas parce que des gens ont décidé de s'en prendre à des entreprises, à des écoles, à des collèges, à des mairies, ça n'est pas parce que des gens ont décidé de brûler, de piller, de saccager, qu'on va aujourd'hui promettre un quatrième référendum. Au contraire, on doit dire de manière d'autant plus forte que le processus doit être respecté et qu'il faut maintenant continuer d'avancer vers le dégel du corps électoral, vers les élections normales qui permettront que tous les Calédoniens s'expriment sur l'avenir de leur collectivité, sur l'avenir de leur île. C'est la priorité absolue, parce que si on ne respecte pas cela, alors oui, encore une fois, on ouvrira la porte à de nouvelles violences demain.
Mais vous le savez, François-Xavier Bellamy, en tenant ce langage, en tenant ce discours, vous avez dit l'autre jour, il faut dégeler le corps électoral. On va vous accuser au mieux de jeter de l'huile sur le feu, au pire de faire de la provocation.
Non, encore une fois, je le redis de manière très paisible, notre devoir aujourd'hui, c'est de reconstruire l'unité de la Nouvelle-Calédonie. Mais on reconstruira son unité en la respectant. Vous savez, ce qui a le plus manqué aux Calédoniens ces dernières années, ce qui est le cœur, je crois, de la question qui nous est posée aujourd'hui, la vraie question, je me permets de le dire de manière très humble, parce que moi, je viens de métropole, je ne suis pas un Calédonien. Et je voudrais dire ça avec tout l'amour que j'ai pour cette terre, où j'ai eu le grand honneur d'être reçu et que j'essaye de comprendre et d'écouter. Ce qui manque le plus aux Calédoniens, ce qui leur a le plus manqué, c'est ce respect, cette reconnaissance, la reconnaissance de leur dignité, de la dignité de tous les Calédoniens. La vraie question aujourd'hui, je crois profondément, ce n'est pas l'indépendance. Il faut arrêter de faire croire aux Calédoniens que ce serait le sujet majeur, que le sujet majeur, ce serait la question institutionnelle de l'indépendance, pour deux raisons. La première, c'est que le processus ouvert par l'accord de Nouméa, il s'est clos. Et donc, moi, je le dis de manière très claire, et je le dis à tous ceux qui, à gauche, à l'extrême gauche, continuent d'utiliser ces mots. La décolonisation de la Nouvelle-Calédonie, elle est terminée. Elle s'est achevée. Oui, la Nouvelle-Calédonie a été une colonie. Et c'est la raison pour laquelle il fallait, oui, que la Nouvelle-Calédonie se prononce de manière libre sur son destin. Et c'est la raison pour laquelle il fallait que dans les accords de Nouméa, on puisse engager ces référendums. Ça a été le chemin choisi. On pourrait distribuer avec le recul des bons, des mauvais points. Ça m'est complètement égal. Ça n'est pas mon rôle. Encore une fois, je regarde le passé avec lucidité et je regarde le passé avec reconnaissance pour tous ceux qui se sont engagés dans ce processus infiniment difficile et qui exigeait tellement d'efforts de tous côtés. Ce processus a eu lieu. Les trois référendums ont eu lieu. La décolonisation, ça voulait dire ça. La décolonisation, ça ne veut pas forcément dire l'indépendance. Ça aurait pu vouloir dire l'indépendance si les Calédoniens l'avaient voulu. Mais ils ont dit qu'ils voulaient rester dans la France. Et maintenant, la Nouvelle-Calédonie n'est plus une réalité coloniale. La Nouvelle-Calédonie, parce que les Calédoniens l'ont voulu, elle est française. Et donc la vraie question maintenant, ça n'est plus de spéculer indéfiniment sur l'indépendance. À mesure qu'on fait ça, on enfonce les Calédoniens dans la crise économique, dans l'appauvrissement, dans l'incertitude, dans toute l'expérience du décrochage qu'ils sont en train de subir collectivement aujourd'hui. La vraie question, c'est comment maintenant on écrit l'avenir. C'est ça le sujet majeur.
Mais à la fois, tout le monde pratiquement nous dit « mais il y a un droit à l'autodétermination, c'est un droit inaliénable, il faudra qu'un jour les Calédoniens se prononcent sur leur avenir ». Vous vous dites que c'est pas vrai, c'est une invention pratiquement.
Mais le droit à l'autodétermination, il a été exercé par les Calédoniens. Et voilà, ils ont pris leur décision. Ils se sont prononcés. Le droit à l'autodétermination, c'est pas une réalité qui reviendrait en permanence et qui serait comme une espèce d'épée de Damoclès suspendue au-dessus de tous les Calédoniens pour l'avenir. Sinon, comment est-ce que vous voulez qu'on engage la discussion sur comment on reconstruit maintenant ? Le droit à l'autodétermination, il existe, il est reconnu, c'est certain. Il a été exercé par les Calédoniens. Ils ont dit trois fois qu'ils qu'il voulait rester dans la France. Trois fois. Et moi, j'entends Mme Le Pen dire le droit à l'autodétermination, il est constant, il existe toujours. Mais
il est constitutionnel, il est... Enfin, c'est vraiment les termes que tout le monde emploie aujourd'hui.
Hein. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Mme Le Pen, demain, elle considère que si un département français en métropole décidait de prendre son indépendance, il faudrait la lui reconnaître? Ça n'a pas de sens. Une fois pour toutes, les départements de la métropole sont dans la France, et maintenant, cette question, elle engage toute la France. Et je me permets de le dire, il y avait une forme d'exception pour la Calédonie, qui faisait que les Calédoniens devaient se prononcer sur leur avenir. Et cette exception, elle est normale, parce que la Calédonie était une réalité coloniale, et que cet héritage-là, il faut en faire quelque chose, et aujourd'hui encore, il faut qu'on arrive à l'appréhender de manière juste et équilibrée. Mais maintenant que les Calédoniens se sont prononcés, alors maintenant, cette question, elle engage toute la France. Les Calédoniens ont dit que la Nouvelle-Calédonie était française. Et comme un Français de métropole, moi aussi, je voudrais dire, à ma mesure et autant que je le peux, à quel point je veux travailler à l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Je veux travailler à l'avenir de la Calédonie dans la France et dans l'Europe. Et je me suis battu pour la Calédonie depuis le Parlement européen sur la question de l'avenir de la filière nickel. C'est une question européenne. Sur l'avenir de l'énergie en Nouvelle-Calédonie, c'est une question européenne. Sur l'avenir de la jeunesse calédonienne, c'est une question pour la France et pour l'Europe. Et c'est à cette échelle-là et avec cet horizon qu'il faut y travailler maintenant.
Pour revenir à Marine Le Pen, vous faisiez allusion, elle est actuellement en Nouvelle-Calédonie et elle a parlé de vous. D'ailleurs, elle trouve que dire que penser que trois référendums allaient régler définitivement la question, c'était faire preuve de naïveté ou d'absence de lucidité. Pour elle, il était évident que trois référendums ne régleraient rien.
Bon, alors je veux bien qu'on traite avec une telle légèreté des référendums. Je ne sais pas si Marine Le Pen, elle disait hier qu'elle était toujours candidate à l'élection présidentielle. Si elle se présente à cette élection suprême, il faudra quand même qu'elle nous explique pour quelle importance elle tient l'exercice d'un référendum, quelle crédibilité elle donne à la parole souveraine d'un peuple qui s'exprime en allant voter pour décider de son avenir. Il ne s'agit même pas d'un référendum, il s'agit de trois référendums. Je ne dis pas que ces trois référendums viennent clore toutes les questions, qu'ils épuisent tous les sujets. L'essentiel maintenant est devant nous, c'est comment on relance l'économie, comment on arrive à construire l'unité de la société calédonienne, comment on rétablit le travail éducatif qui manifestement a tant besoin d'être soutenu, comment on retrouve des conditions favorables pour la santé en Calédonie. Toutes ces questions-là, elles sont bien sûr devant nous. Mais ces trois référendums, ils ont une valeur déterminante pour traiter toutes ces questions. Parce que ces trois référendums, ils disent que les Calédoniens ont voulu que la Calédonie soit française. Et si Marine Le Pen ne veut pas entendre cela, alors je crois que malheureusement, elle manque au respect de la démocratie, mais elle manque aussi à la France et à la fidélité que la France doit pouvoir attendre de ceux qui viennent la représenter, y compris sur le sol de la Nouvelle-Calédonie.
Alors, le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, lui non plus ne semble pas vraiment avoir entendu le message, puisqu'il dit que le troisième, les référendums, laisse un goût d'inachevé, et il a posé sur la table, lors des discussions sur l'avenir institutionnel, un projet qui s'apparente à une indépendance d'association. Il parle de souveraineté en union avec la France. Vous avez parlé carrément de moments de trahison démocratique de la part de Manuel Valls.
Je crois qu'un projet d'indépendance association serait une trahison démocratique, pour la raison que je viens d'évoquer. On demande aux Calédoniens s'ils veulent l'indépendance. C'est la question des référendums. Premier référendum, ils disent « nous ne voulons pas l'indépendance ». Deuxième référendum, « nous ne voulons pas l'indépendance ». Troisième référendum, « nous ne voulons pas l'indépendance ». Et le ministre des Outre-mer arrive et propose l'indépendance. L'indépendance, association. Mais l'indépendance, association, ça veut dire d'abord indépendance. On nous dit, écoutez, vous devriez quand même accepter la Calédonie avec la France. C'est quand même mieux que la Calédonie sans la France. Mais nous, nous ne voulons qu'entendre ce que les Calédoniens ont dit. Ils ont dit, nous voulons la Calédonie dans la France. Pas avec la France, dans la France. Et c'est pour moi, encore une fois, déterminant. On est face à une question qui est d'une immense gravité. Ce ne sont pas des mots qu'on est en train d'agiter. C'est la réalité concrète que vivent les Calédoniens. J'ai rencontré hier des chefs d'entreprise de Nouvelle-Calédonie, des chefs d'entreprise qui portent des sociétés dans lesquelles toute la société calédonienne est présente et représentée. Et ils m'ont dit que la simple formulation de cette proposition à Deva, le seul fait qu'un ministre soit venu avec cette proposition, avait jeté un immense coup de froid sur l'économie. Immense, immédiat. Parce que les gens se sont arrêté de consommer, ont arrêté d'investir, ont arrêté de se projeter. Parce que quand on dit et qu'on vient de la part de l'État pour parler d'indépendance, en réalité, d'un seul coup, on recrée cette incroyable insécurité dans laquelle la Calédonie a vécu ces dernières années.
Alors, est-ce que c'est une proposition de l'État? C'est la question que tout le monde se pose un peu depuis que Manuel Valls l'a mis sur la table. On a vu que le président de la République voulait reprendre la main. Alors, est-ce que c'est un désaveu de son ministre des Outre-mer? Et est-ce que ça vous paraît bien souhaitable que le dossier calédonien soit maintenant traité au niveau de l'Élysée?
Bon, je ne sais pas si c'est... Je ne crois pas que ce soit le dernier mot, en tous les cas, c'est certain, puisque de toute façon, cette proposition a été mise en échec. Et moi, je voudrais dire ma profonde reconnaissance à toutes les voix qui ont eu le courage de dire non à Deva. Ils étaient sept. Je voudrais dire ma reconnaissance à Alcide Ponga, le président du gouvernement, à Virginie Rufnak, première vice-présidente du Congrès, à Sonia Backès, bien sûr, présidente de la province Sud, à Nicolas Metzdorf, député, à Gilles Brial, à Pascal Vittori, le président de l'Association française des maires.
Et à Brieuc-Rogier, pour terminer, donc les deux délégations et au Rassemblement et
ils ont eu le courage de dire ensemble non. Ils viennent de bords politiques qui ne sont pas tous identiques. Ils viennent de parties différentes de la Nouvelle-Calédonie. Ils viennent de toutes les communautés de la Nouvelle-Calédonie et ils ont dit ensemble ce nom qui représente ce que les Calédoniens avaient voulu dans ces trois référendums. Et ce nom, il a sauvé l'expression des Calédoniens dans leur majorité dans ces trois référendums. Donc cette proposition, maintenant, je le crois profondément, elle ne peut plus être sur la table. Par ailleurs, elle ne suscitait de toute évidence pas le soutien de l'unanimité du gouvernement. Bruno Retailleau, là encore, ministre de l'Intérieur, est aussi le président de notre famille politique. Et nous, avec les Républicains, nous disons, et Bruno Retailleau le dit, si cette proposition devait devenir la position définitive du gouvernement français, nous quitterions le gouvernement. C'est clair. Et je crois que cette position de notre famille politique, elle ne déviera jamais. Et je crois que beaucoup de Calédoniens peuvent s'y retrouver aujourd'hui. Donc voilà, maintenant, il faut une nouvelle étape. Le président de la République prend une initiative. Nous y contribuerons. Il faut que toutes les forces calédoniennes, y compris la société calédonienne, puissent maintenant s'engager dans l'étape future de cette discussion nécessaire.
Alors pour cette discussion institutionnelle, l'autre jour, vous avez posé un cadre et des lignes rouges. Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que c'est au nom des Républicains que vous le proposez? Et comment doivent s'organiser ces discussions institutionnelles? Avec quel but? Puisque maintenant vous dites la Calédonie est dans la France, mais il faut organiser son statut et son avenir.
Bien sûr, parce que je le disais, l'essentiel des questions reste devant nous maintenant. C'est une chose d'être un territoire français, mais c'est absolument clair que la Nouvelle-Calédonie, pour la Nouvelle-Calédonie, être un territoire français, ça ne veut pas dire exactement la même chose que pour l'Île-de-France où j'habite, qui est à quelques kilomètres de Paris. Ça n'est pas la même chose d'être un territoire français au milieu du Pacifique. Et donc, il faut maintenant qu'on réfléchisse à la meilleure manière d'organiser l'exercice de la responsabilité politique, économique, ici, en Nouvelle-Calédonie, mais qu'on l'organise d'une manière qui soit ajustée aux besoins de ce territoire. Moi, je crois qu'on a besoin de retrouver un vrai régime de responsabilité politique. Il y a des réformes immenses à faire pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et on évoquait déjà tant de questions qui font que des décisions sont attendues, et même attendues d'urgence. Je pense au nickel, évidemment. La question du nickel et l'avenir du nickel, c'est l'avenir du poumon économique de la Nouvelle-Calédonie. Mais ça supposera qu'on ait une vraie stratégie sur les questions d'énergie. Ça supposera qu'il y ait un travail majeur qui soit fait sur la question de la reconstruction et donc sur la question du système bancaire, sur la question des assurances. Il faut que les assurances jouent leur rôle aujourd'hui. Je le dis d'ailleurs, il y a une forme de scandale très grand dans le fait que des assureurs n'aient toujours pas indemnisé des gens qui ont tout perdu, et notamment des entrepreneurs qui ont vu disparaître leur outil de travail, des salariés qui ont vu disparaître leurs entreprises, qui ne peuvent pas reprendre le travail parce que les assureurs ne sont pas au rendez-vous. Tout cela, ça suppose qu'il y ait des politiques en Nouvelle-Calédonie qui puissent agir et qui aient les moyens d'agir, et les moyens d'agir maintenant pour leur territoire. Mais ça, ça va supposer qu'on repense la mécanique, en effet, institutionnelle. Je ne crois pas que ce soit le cœur des enjeux, mais c'est la condition du reste. C'est la condition du reste.
C'est-à-dire, essentiellement, aujourd'hui, la répartition des compétences entre les différentes institutions, puisqu'on est toujours dans le cadre de l'accord de Nouméa. Il y a un projet de fédéralisme, alors fédéralisme interne, fédéralisme externe à deux vitesses, qui a été posé sur la table. Est-ce que ça peut être, selon vous, une piste pour construire la Calédonie de demain?
Alors là, pour le coup, moi, je ne veux pas me mettre à la place des Calédoniens. C'est eux qui doivent, en premier, avoir la parole pour décider de la manière dont il faut organiser la répartition des compétences. Je dirais deux choses qui me paraissent essentielles. La première, c'est que notre devoir, c'est de garantir l'unité de la Nouvelle-Calédonie. C'est le sens de ces référendums. Les référendums, ils ne concernaient pas des parties de la Calédonie. Et moi, je voudrais dire à quel point, aujourd'hui, cette unité est un devoir. Un devoir. La Calédonie... C'est aussi le sens de la France, n'est pas une addition de communautés qui devraient rester à distance. Elle ne pourra avoir d'avenir que par la reconnaissance profonde de cette unité qui nous lie. Bien sûr, les histoires sont différentes. Bien sûr, il faut faire ce travail de reconnaissance de la diversité des cultures, de la diversité des identités. Tout cela est fondamental. Mais à la fin, ce qui doit être garanti par ce travail de reconnaissance réciproque, c'est l'unité de la société calédonienne. Et cela étant dit, une fois qu'on a posé ça comme un cadre essentiel, il faut aussi qu'on puisse assurer, et ça c'est un combat que je porte aussi en Europe, ce qu'on appelle la subsidiarité, c'est-à-dire le fait que la décision publique soit prise au niveau le plus proche du terrain. La Nouvelle-Calédonie, c'est cette diversité de territoires, cette diversité d'histoires. Il faut que les décisions puissent être prises au plus près du terrain pour garantir le maximum d'initiative, le maximum de liberté, le maximum de responsabilité politique. Et ça, ça veut dire revitaliser d'abord le levier des communes. J'ai échangé hier avec les maires réunis par Pascal Vittori, des maires de toute la Nouvelle-Calédonie avec qui on partageait sur les difficultés du territoire et qui m'ont impressionné par leur engagement, par leur force. Ces maires qui ont dormi dans leur mairie pendant les événements de l'an dernier pour éviter qu'elles ne brûlent, ces maires qui ont été en première ligne, aujourd'hui ils disent qu'ils veulent avoir les leviers pour agir, les leviers pour décider. C'est évidemment nécessaire. Et puis l'échelon des provinces, qui est un échelon pertinent aussi pour pouvoir mener une action efficace, il faut partout qu'il y ait, là aussi, comme au gouvernement, des majorités claires qui permettent d'agir vraiment et d'assumer des responsabilités.
L'unité de la Calédonie, mais vous le savez, il y a une fracture identitaire sur le territoire et globalement, beaucoup de Mélanésiens pensent qu'ils doivent être indépendantistes parce qu'ils sont kanaks. Comment passer au-delà? Comment essayer de convaincre une partie de la population calédonienne?
Mais d'abord, je crois qu'il faut absolument que le dialogue soit renouvelé en profondeur. C'est mon sentiment aujourd'hui. La défiance s'est installée de part et d'autre, et c'est ce qui me marque le plus, une forme de peur réciproque. Il faut sortir de cette peur. Bien sûr, les blessures sont très profondes, et ça supposera un long chemin. Mais il me semble qu'aujourd'hui, on a tout pour voir, de manière parfaitement claire et parfaitement concrète, que la spirale de défiance et cette violence qui a marqué la Nouvelle-Calédonie n'a bénéficié à personne, je le redis, à personne. On ne construira l'avenir de la Nouvelle-Calédonie pour les Kanaks, pour les Mélanésiens, pour les Wallisiens, pour toutes les communautés, pour les métropolitains aussi qui la font aujourd'hui, qui l'enrichissent de ce qu'ils lui apportent. On ne construira l'avenir de ce territoire que si on arrive précisément à cet effort de reconnaissance réciproque. Mais cette reconnaissance, encore une fois, je le dis vraiment avec beaucoup d'humilité, mais aussi de façon très claire, elle ne signifie pas l'indépendance. Et je pense que l'indépendance, c'est une fausse question. C'est une fausse question. C'est comme si aujourd'hui, je voudrais reprendre la métaphore employée par Alcide Ponga, j'ai beaucoup d'admiration pour le travail qu'il mène, justement avec ce qu'il incarne, Alcide. Il le dit, quand vous allez chez le médecin, si vous avez le pied cassé, mais que vous montrez en permanence votre oreille, vous n'avez que peu de chances de guérir et d'être soigné. Eh bien, aujourd'hui, il faut qu'on arrive à mettre le doigt là où ça fait vraiment mal. Ça fait trop longtemps qu'on parle d'indépendance, qu'on parle donc de questions institutionnelles, qu'on parle de questions d'organisation, qu'on parle de questions électorales, alors que ça n'est pas là que se trouve en réalité le vrai mal. Le vrai mal, il est dans les blessures d'une histoire qui doit être surmontée, dans la nécessité d'une reconnaissance qui doit être enfin vécue, qui doit être enfin partagée. Et mon sentiment profond, c'est que c'est ce travail-là qui nous attend aujourd'hui. Je ne doute pas un instant que beaucoup de gens dans la communauté mélanésienne sont les mieux à même de mesurer où se trouve ce dont ils ont vraiment besoin. Et ce dont ils ont vraiment besoin, j'en suis profondément convaincu, ne passe pas d'abord par le maintien d'une question qui en fait n'est tout simplement pas bien posée. Vous savez, j'ai beaucoup lu sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie et l'histoire du mouvement Kanak, qui existe depuis très longtemps, bien sûr, d'un mouvement dont on peut comprendre les racines profondes. Mais ce mouvement Kanak, pendant très longtemps, n'était pas indépendantiste. Et la question de l'indépendance n'en faisait même pas partie. Et donc, la question que je me pose, c'est est-ce que ça n'est pas le moment de remettre la conversation là où elle doit vraiment se dérouler, au point où elle est attendue ?
Il y a un autre élément, je sais que vous en êtes un spécialiste, en tout cas vous vous y intéressez beaucoup en Europe, ce sont les ingérences extérieures, et notamment en Nouvelle-Calédonie, vous le savez, les ingérences de l'Azerbaïdjan. On pense qu'ils ne sont pas pour rien dans ce qui s'est passé il y a un an en Nouvelle-Calédonie, même si pour l'instant rien n'est encore vraiment prouvé sur un plan judiciaire. Comment est-ce qu'on peut lutter contre ce type d'ingérence ? Et pourquoi ça existe encore aujourd'hui ? Et pourquoi la France ne protège pas mieux, peut-être, ces outre-mer de ces ingérences ?
D'abord, on doit lutter contre ces ingérences étrangères. Et moi, ce qui me marque, c'est qu'aujourd'hui, il semble que ce ne soit pas encore une urgence pour l'État dans son action internationale. Et pour l'Europe également, parce que, vous savez, on a beaucoup parlé au Parlement européen ces dernières années d'un grand scandale de corruption qui a touché l'institution qu'on a appelée le Qatargate. Le Qatargate, c'est le Qatar qui est venu payer des parlementaires pour faire avancer ses intérêts. C'était évidemment une grande honte, un grand scandale. Et j'espère que ceux qui se sont rendus coupables de cela seront sévèrement condamnés. Mais ça n'était pas le premier scandale de corruption. Il y a eu un précédent scandale majeur dans les institutions européennes, et notamment au Conseil de l'Europe. Et c'était le scandale de la diplomatie du caviar menée par l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan est le premier État corrupteur dans les institutions européennes. Et donc, je vois bien comment ça fonctionne. Et moi, je voudrais dire ma gratitude à la présidente du Congrès de Nouvelle-Calédonie, que j'ai rencontrée hier. On a eu une très belle conversation, parce qu'elle a saisi avec beaucoup de détermination ce sujet de l'ingérence, et qu'elle a dénoncé la manière dont certains élus au Congrès avaient pu se compromettre avec l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, qui par ailleurs est l'une des pires dictatures du monde. L'Azerbaïdjan, c'est un État autoritaire profondément corrompu dont le dictateur utilise l'argent qu'il tire des ressources du gaz pour pouvoir garantir son train de vie, opprimer son propre peuple et réprimer ses opposants jusque sur le sol de la métropole française. Si vraiment, pardon de le dire avec franchise, mais si vraiment il y a en Nouvelle-Calédonie des élus qui pensent défendre l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie au nom de la liberté, au nom de la démocratie, au nom de la dignité, alors je crois qu'ils doivent renoncer à jamais à employer tous ces mots s'ils ont comme premier allié un État dictatorial qui figure parmi les puissances les plus répressives du monde. C'est l'Azerbaïdjan qui, il y a 3 ans, a attaqué sauvagement le peuple arménien parce qu'il revendiquait l'autodétermination dans le Haut-Karabakh, parce qu'il revendiquait le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Cet État, l'Azerbaïdjan, a attaqué ce peuple, a attaqué des civils désarmés pour pouvoir garantir son pouvoir oppressif sur ce territoire contre leur volonté d'autodétermination. Je dis aux indépendantistes aujourd'hui, si c'est là votre allié, alors ne venez plus jamais nous parler de liberté, plus jamais d'autodétermination, plus jamais de démocratie. On peut avoir l'avis qu'on veut, on peut avoir les convictions qu'on veut, nous sommes en démocratie, je respecte toutes les opinions, mais il faut avant tout garantir la sécurité de nos processus démocratiques, et ça suppose de combattre tous ensemble, quelles que soient nos convictions, contre les ingérences étrangères.
François-Xavier Bellamy, vous nous parliez de DLR il y a quelques instants, donc qui a choisi comme président Bruno Retailleau. Vous êtes le numéro 2 de ce parti aujourd'hui. Est-ce que votre volontarisme est partagé par les Républicains ? Les Calédoniens aujourd'hui ne savent peut-être plus trop vers qui se tourner. Beaucoup de gens viennent en Nouvelle-Calédonie, beaucoup de gens en parlent. Des députés LFI, des députés du Rassemblement National. Vous aujourd'hui pour les Républicains, quels sont les alliés de la Calédonie aujourd'hui en métropole, et quels sont vos moyens d'action ? Est-ce que vous avez le poids suffisant aujourd'hui à l'air pour pouvoir imprimer une marque dans ces discussions sur l'avenir ?
Bien sûr. Nous sommes un parti qui se reconstruit, c'est certain. Avec l'élection de Bruno Retailleau, nous avons maintenant un nouvel élan. Nous avions 45 000 adhérents il y a 3 mois, nous en avons 122 000 aujourd'hui. Donc il y a une très belle dynamique qui se déploie partout en France. Et cela nous donne la légitimité pour intervenir dans les débats qui nous attendent. Nous avons la majorité au Sénat, nous avons un groupe important à l'Assemblée nationale. Nos parlementaires, en France, l'ont dit avec clarté, ils voteront pour soutenir les étapes qui attendent la Nouvelle-Calédonie. Et je reparle de cette question du dégel. Je suis désolé d'entendre que Marine Le Pen ne veut plus voter ce dégel qu'elle avait dit indispensable et qu'elle explique maintenant qu'il ne faut surtout pas le faire. Nous, notre parole est claire et elle n'a jamais varié. Nous sommes la première force politique en Europe et avec cette force politique, nous travaillerons sur les sujets qui attendent le développement économique, l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Nous sommes prêts à agir pour la Calédonie. Et je dois dire que, aujourd'hui, une de mes grandes fiertés, c'est de faire partie de cette famille politique qui a, je le crois, on peut le toucher du doigt en cette période si importante, qui a la parole la plus claire sur la responsabilité que nous avons aujourd'hui vis-à-vis des Calédoniens. Les Calédoniens sont passés par tant d'épreuves, ils ont vécu tant de blessures, tant de souffrances, tant d'incertitudes. Nous avons politiquement le devoir de leur apporter enfin la clarté sur la question de la Calédonie, qui est une question vitale. Parce que je pèse mes mots, elle engage des vies. Elle engage des vies. Sur cette question-là, on n'a pas droit au « en même temps ». Et le « en même temps », aujourd'hui, malheureusement, il est dans beaucoup de familles politiques. Il est à gauche, à l'extrême gauche, où on prétend encore parler de décolonisation parce que ça fait du bien de dire du mal de la France. Le « en même temps », il est malheureusement dans certaines formations politiques du gouvernement qui, on l'a vu encore récemment, malheureusement, joue sur les mots avec l'indépendance association. Le « en même temps », il est aussi au Rassemblement national. Et moi, je suis déconcerté, désemparé, je le dis sans esprit polémique, je ne suis pas venu là pour faire de la politique partisane, la Calédonie vaut mieux que ça. Mais je suis déconcerté que certains puissent à ce point varier sur des sujets aussi essentiels que la question d'un nouveau référendum dans 30, 40, 15 ans, j'en sais rien, que la question du dégel du corps électoral qu'il faudrait abandonner parce que certains voudraient imposer par la violence une intimidation sur ces sujets si essentiels. Nous ne jouons pas au « en même temps ». Avec les Républicains, nous sommes clairs, et avec la formation politique qui représente ici les Républicains, avec le Rassemblement, avec Alcide Ponga, avec Virginie Rufnacht, avec tous ceux qui font vivre notre mouvement ici, nous disons la nécessité d'une parole claire sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, qui soit la condition de la lisibilité pour l'avenir, qui relancera l'économie, qui redonnera des perspectives, qui ramènera l'unité, la paix, la sécurité. C'est tout cela qui est nécessaire. Et je crois que toutes les Calédoniennes et tous les Calédoniens qui veulent partager ce combat peuvent nous rejoindre aujourd'hui.
Encore un mot, vous avez terminé l'autre soir votre réunion publique, votre discours dans la réunion publique, en posant une question qui était peut-être le philosophe qui parlait. Y a-t-il de l'inéluctable ? Et c'est vrai que c'est une question qui se pose. Alors souvent la réponse est de penser qu'effectivement les choses sont inéluctables, qu'il y a un sens de l'histoire. Qu'est-ce que vous répondez à cette question ? Y a-t-il de l'inéluctable ? Une fois que vous l'avez posée, il faut une réponse.
Je crois que c'est la question à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Et vous avez raison de le dire, je me pose la question comme prof de philo, mais je la pose aussi d'une manière extrêmement concrète. Vous savez, aujourd'hui, on a une grande question sur les outre-mer français, d'une manière générale. Et quand je vais au Parlement européen, je rencontre des collègues qui me disent « Mais c'est très étonnant, pourquoi est-ce que vous avez encore ces territoires français qui sont au-delà des mers ? Est-ce que ça n'est pas quelque chose d'anachronique, de désuet, quelque chose dont il faudrait finalement se défaire pour se tourner vers l'avenir ?» Moi, je crois l'inverse. Je pense que la France, effectivement, est singulière en Europe de ce point de vue-là. La France, elle se communique, elle se partage, elle se transmet et elle peut se transmettre même loin de la métropole. Et ce rêve d'égalité, ce rêve de fraternité, ce rêve de liberté qui se vit d'une certaine manière de façon universelle, ce rêve-là, c'est peut-être l'autre nom de la France. Dire que la Nouvelle-Calédonie est française, ça n'a rien d'une évidence. Et certains voudraient nous faire croire que, ben, en fait, non, c'est fini, que c'est terminé, que quoi qu'il arrive, c'est plié, que bien sûr, ça durera pas, qu'il faut s'y préparer, que quoi qu'il arrive, quelle que soit la manière, un jour, tout ça sera fini. Moi, je crois l'inverse. Et je pense que les Calédoniens le montrent aujourd'hui par leur incroyable courage. J'ai parlé de cette peur que j'ai sentie, de cette blessure, de cette souffrance. Mais je voudrais dire ce qui me marque le plus, c'est le courage, c'est la détermination des Calédoniens, de ces entrepreneurs, de ces salariés qui reconstruisent leur outil de travail malgré toutes les difficultés, de ceux qui se réengagent pour l'avenir, de ces élus qui continuent de se battre et qui n'ont jamais rien lâché. Aujourd'hui, les Calédoniens nous disent qu'il n'y a rien d'inéluctable. Et je crois qu'il faut le prendre au mot. Moi, je suis convaincu que les Calédoniens l'ont dit et que cela se réalisera. L'avenir de la Calédonie est dans la France. Et c'est la responsabilité de la France maintenant de le construire avec tous les Calédoniens, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur communauté, pour garantir leur égale dignité. Mais il n'y a rien d'inéluctable, il n'y a pas de fatalité à ce que ce rêve disparaisse. Au contraire, ce rêve, c'est notre avenir. Ce sera la réalité, on le construira ensemble, et ce sera notre manière de prouver qu'impossible n'est pas français, impossible n'est pas calédonien non plus.
La réponse à la fois du politique et du philosophe François-Xavier Bellamy, merci. Vous poursuivez votre visite en Nouvelle-Calédonie. Vous êtes au Mont d'Or cet après-midi. Vous tenez une réunion publique, c'est à 18h ce soir au Mont d'Or.
Exactement, on sera très heureux de vous y retrouver.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.